Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la technologie blockchain et pour cela, nous recevons David Ron.
Oui, bonjour. Alors David Ron, software engineer de Suisse à Zurich. Donc je suis un grand enthousiaste d'une technologie qui s'appelle Ethereum, qui est une technologie de blockchain. Et je lance ici des événements et d'autres hackathons pour créer et stimuler la communauté en Suisse.
Merci David. Les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Renaud Lifschitz.
Bonjour.
Vladimir Kola.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors David, la techno blockchain, qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes ?
Alors, dans les grandes lignes, une technologie blockchain, c'est, comme son nom l'indique, une chaîne de blocs. Donc, c'est un bloc qui va référencer à ses parents et qui va créer, en fait, une historique. Et cette historique sera là et ne pourra pas être cassée. Et donc, l'idée étant que personne ne pourra altérer les informations ou les modifier pour quelque raison que ce soit.
Ah, pour faire simple, c'est un arbre de Merkel, quoi.
Voilà.
On peut voir ça aussi comme un registre, une sorte de registre global dans lequel tout le monde peut écrire, mais que personne ne peut effacer et qui va s'accumuler au fil du temps et qui est distribué sur toutes les machines.
Et donc, à quoi ça sert ?
Alors, tout d'abord, ça sert à pouvoir interagir entre des intervenants dont on n'a pas forcément confiance, vu que personne n'est totalement owner, donc il n'a pas le total contrôle des informations. On peut avoir confiance des changements qu'on va faire dans le système, même si les intervenants n'ont pas forcément de bonnes intentions.
On n'a pas besoin des technologies de chaîne de blocs pour ça. PGP, ça permet déjà ça.
Non, parce que PGP, tu peux pas savoir si la clé que tu as poussée sur pgp.mit.edu, c'est bien celle de ton correspondant. Tu sais juste qu'il y a un registre, mais il n'y a aucune forme d'autorité qui valide que les informations du registre sont correctes. Là, en fait, ce que fournit la blockchain, c'est deux choses. C'est déjà le fait que c'est write-only, entre guillemets, puisque tu peux juste ajouter des choses et que chaque bloc va être validé par le suivant. Mais surtout, c'est auditable. C'est pas tout à fait vrai qu'on peut pas manipuler la blockchain. C'est d'ailleurs ce qui est un peu en train de se passer sur Bitcoin, mais on en parlera tout à l'heure. Par contre, si t'as suffisamment de puissance de calcul dans le réseau, en fait, tu peux insérer des informations erronées. Par contre, absolument tous les gens qui observent la blockchain pourront voir que les informations sont erronées. Donc, en fait, la blockchain, elle te fournit deux propriétés, le fait d'être impossible à altérer et le fait d'être auditable.
Puis l'autre intérêt aussi, c'est la confiance. C'est pas besoin de faire confiance à un ou plusieurs acteurs. La confiance est décentralisée. On peut même avoir comme hypothèse qu'il y a certains acteurs sur la blockchain qui vont être malveillants. C'est absolument pas gênant pour la confiance qu'on a dans le système global. Puisque, grosso modo, c'est un système de vote, entre guillemets, pour insérer des blocs dans cette chaîne. Et que si l'essentiel des acteurs sont d'accord pour insérer un bloc, le bloc sera inséré ad vitam aeternam, et on reviendra plus. Bon, même s'il y a quelques acteurs malveillants dans le réseau, c'est pas gênant tant qu'on est une majorité à vouloir que le système fonctionne.
À condition quand même d'avoir les moyens de consommer de l'énergie et de polluer la planète. Moi, ce que j'ai surtout remarqué sur les chaînes de blocs, c'est que ça servait à consommer de l'électricité.
Alors non, ça dépend quelles sont les preuves de travail. Il y a des preuves de travail, effectivement, comme tu dis, Hervé, pour faire avancer la blockchain et montrer que tu participes et que, du coup, on ne puisse pas biaiser la blockchain facilement, à moins, justement, de posséder une puissance de calcul phénoménale. Ceci dit, il y a des preuves de travail qui sont intelligentes sur certaines blockchains. Il y a, par exemple, Datacoin, qui est une blockchain pour faire du stockage. Il y a Primecoin, qui est une crypto-monnaie avec une preuve de travail qui est de chercher des nombres premiers et des chaînes de nombres premiers, donc qui fait avancer la recherche en théorie des nombres. Justement, qui remplace les calculs inutiles par des calculs utiles à la communauté scientifique.
Alors justement, on ne peut pas parler de la techno blockchain sans parler des crypto-monnaies. Quel est le rapport entre les crypto-monnaies et la techno blockchain?
Bah, historiquement, c'est Bitcoin qui a créé le concept de blockchain. Donc,
créé, on ne sait pas, mais popularisé, ça c'est sûr.
Oui. Bah, objectivement, le fondateur de Bitcoin reste anonyme à ce jour. Il n'a pas posé de brevet sur la technologie et personne n'est venu avec une preuve d'antériorité disant « Ah si, si, moi j'avais un brevet sur le concept de blockchain, donc Bitcoin m'appartient. » Et aujourd'hui, ça représente des milliards, donc quelqu'un l'aurait certainement fait. Je pense que Bitcoin est la première implémentation de blockchain, même s'il a pu exister des trucs dans les labos qui... Voilà.
Alors, les deux sont liés, en fait, la crypto-monnaie et les chaînes de blocs sont assez liées pour déjà une raison de sécurité, pour éviter le spam hein, sur la blockchain, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui envoie des milliers, des millions de transactions pour faire exploser la taille de la blockchain ou saturer le réseau. On introduit une monnaie et justement on fait payer chaque transaction, ce qui permet d'éviter qu'un acteur puisse... évoluer comme ça la blockchain. Donc chaque transaction, chaque envoi de données sur la blockchain est payant et c'est une unité de monnaie qui est fictive qu'on introduit avec la blockchain qui évite justement le spam et qui permet au réseau d'assurer un minimum de disponibilité et du moins que ça soit très coûteux de faire du spam ou du déni de service sur ce réseau.
Alors il y a quand même un point intéressant, c'est parce qu'aujourd'hui tout est basé sur les proof of work justement. Le fait d'avoir calculé un hash ou factorisé un nombre premier. Il y a certaines technologies qui essayent de passer sur des modèles de proof of stake, où en fait c'est tu prouves que tu possèdes une partie de la blockchain pour pouvoir signer un élément. Et du coup, t'as plus besoin de dépenser des gigawatts des gigawatts. Là, j'ai un chiffre sous les yeux. Apparemment, en 2014, un bitcoin nécessitait 240 kilowattheures, pardon. Donc, c'est pas dément non plus. C'est clair que aujourd'hui c'est ceux qui ont le plus de puissance de calcul qui gagnent et il y a des modèles alternatifs, des blockchains alternatifs qui essayent de passer sur des preuves de possession où là tu consommes plus d'énergie inutilement, on va dire.
Et justement Ethereum, c'est une de leurs un des objectifs du projet est justement de passer du proof of work au proof of stake, où finalement les validateurs ont quelque chose à perdre s'ils vont contre la communauté et contre le réseau. Et donc créer un système plus simple et peut-être moins sécurisé dans la globalité par rapport à la proof of work, mais où un attaquant aurait beaucoup trop à perdre pour pouvoir arriver à ses attaques.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait à perdre en fait? Qu'est-ce qu'il perdrait?
Eh ben, il perdrait la crypto-monnaie, il perdrait dans ce cas-là de l'Ether.
Mais ça se traduirait comment? Parce qu'en fait, un des problèmes aujourd'hui de Bitcoin et des crypto-monnaies de ce type-là, c'est que si tu es trop prédominant sur le réseau, c'est-à-dire que si tu possèdes une vraiment trop grosse partie du réseau de mineurs, tu peux presque faire passer les transactions que tu veux. Si lorsqu'il y a les votes, c'est toi qui gagnes, tu fais passer ce que tu veux.
Alors oui, donc l'idée ici est d'avoir un nombre fini de validateurs et de pouvoir en fait avoir une sorte de communauté de gens qui vont mettre à risque une partie de leur avoir et si le consensus n'est pas trouvé, c'est-à-dire si quelqu'un va contre le consensus, va perdre en fait ce qu'il a mis en jeu.
Ok.
Et puis un autre intérêt par rapport à la puissance de calcul, effectivement, qui est importante, qui est un peu une course à l'armement sur pas mal de crypto-monnaies. Sur Ethereum, il y a quand même quelque chose qui est assez bien pensé, qui limite un peu la course à l'armement. C'est le fait que il faille calculer sur une grande quantité de données. Donc c'est pas uniquement l'espace de calcul qu'il faut, il y a de l'espace de stockage aussi. Ce qui évite en fait, il y a un intérêt à développer des ASIC, donc des circuits électroniques spécialisés pour le calcul. Grosso modo, ça arrête la course à l'armement au GPU simplement. Parce que ce qu'on avait constaté avec Bitcoin, c'est que au début, on minait avec des processeurs classiques. Après, on a commencé à miner sur des cartes graphiques. Et après, ça s'est translaté sur des FPGA et des ASIC, donc des circuits qui étaient moulés exprès pour ça. Là, sur Ethereum, pour miner des Ethers, il faut aussi un espace de stockage qui est conséquent de 2 gigas, ce qui limite le développement en fait d'ASIC spécialisés, parce que l'ingénierie pour faire un ASIC avec 2 gigas de RAM, c'est environ un an de développement et puis des coûts astronomiques d'un demi-million de dollars environ. Et dans un an, Ethereum va passer à du proof of stake, donc ça a aucun intérêt en fait pour quelqu'un de courir plus que d'essayer de s'armer de plus de moyens que de faire du market.
Bon, d'un autre côté, ouais, enfin les cartes graphiques, 2 gigas de RAM sur une carte graphique, c'est plutôt commun, c'est pas vraiment une difficulté.
Oui, tout à fait, mais justement, on s'arrête aux cartes graphiques et il n'y a pas de développement vers du FPGA ou de l'ASIC. Parce que il y a cet obstacle de stockage et l'obstacle de dans un an on va passer sur du proof of stake, donc ça vaut pas le coup de développer quelque chose qui mettrait un an à développer et qui coûterait extrêmement cher pour au final devoir le jeter.
Alors Renaud, est-ce que tu peux mieux nous expliciter la différence entre proof of work et proof of stake?
Alors c'est pas très simple à expliquer, mais proof of work c'est on réalise un travail hein, pour montrer qu'on fait partie du réseau et qu'on est digne de confiance. En vérifiant les transactions des autres. Donc, le réseau, en permanence, nous envoie du travail, on doit vérifier que les transactions sont valides, c'est-à-dire que le compte était provisionné, le compte émetteur était provisionné, il envoie donc une transaction vers un second compte. En permanence, donc, on valide ces transactions-là et on les relaie si les transactions sont correctes. Et en échange de ce travail de vérification des transactions, on est rémunéré en collectant des frais de transaction qui sont associés à ces transactions-là, et en récupérant des récompenses qui sont associées au bloc complet qui va englober toutes ces transactions.
Bah, concrètement, sur Bitcoin, ça consiste à calculer un SHA-256 avec un certain nombre de bits à zéro à gauche.
Donc, voilà, tu dois ça. Vraiment, donc, c'est un calcul qui est assez, assez inutile dans le cas de Bitcoin, puisque c'est calculer un hash avec un niveau de difficulté qui, grosso modo, correspond effectivement au nombre de zéros qu'on a sur les bits de poids forts. De ce hash-là, ce qui n'a pas un grand intérêt calculatoire, on va dire. Mais il y a d'autres blockchains, hein, comme Datacoin ou Primecoin, qui calculent des nombres premiers et des chaînes de nombres premiers, les chaînes les plus longues, et qui ont battu d'ailleurs plus d'une vingtaine de records mondiaux depuis leur lancement. Donc il y a un réel intérêt pour la communauté scientifique, et ça évite de gaspiller de l'argent à ne rien faire, tant qu'à faire du travail autant qu'il soit utile, et qu'il aide certaines communautés. Donc on peut faire du calcul sur certaines blockchains. Et pour ce qui est du proof of stake, c'est assez compliqué d'expliquer ce concept-là. C'est effectivement prouver qu'on détient une partie de la chaîne, mais il n'y a pas à l'heure actuelle d'implémentation mature. Du moins, j'en ai pas à ma connaissance d'implémentation mature de proof of stake.
En fait, il y a plusieurs implémentations et aucune n'a été expérimentée à large échelle.
Ouais, c'est ça.
Il y a des expérimentations qui sont basées sur la sélection aléatoire de peers dans le réseau pour éviter les collusions. Il y a des expérimentations basées sur l'ancienneté. Donc, en fait, celui qui est le plus ancien dans le réseau c'est ceux qui ont plus de 30 jours dans le réseau, en fait, doivent participer et prouver qu'ils ont encore les coins. Et il y en a d'autres qui sont basées sur un système de vote, assez ordinaire, quoi. Mais personne n'a réussi à démontrer à large échelle quel système arrivait à, on va dire, à faire des transactions rapides et sûres, et à résister à toutes les attaques de type collusion et autres.
David, si tu me dis si je me trompe, mais pour Ethereum, il n'y a rien qui est encore fixé comme algorithme pour Ethereum lors du passage au proof of stake. Il y a encore beaucoup de choses à définir.
Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vitalik, qui est l'un des fondateurs de Ethereum, a publié une proof of concept où il dit que ces simulations ont bien fonctionné. Mais comme toujours, ça reste des simulations. Ça n'a pas encore été réellement testé. Et c'est de ce que lui-même dit, c'est encore loin d'être prêt à être mis en production.
D'après ce que je vois sur leur site, en fait, ils avaient un premier algorithme qui s'appelait Slasher, où en fait, si jamais tu tentais de frauder, tu étais puni, et donc tu avais beaucoup à perdre. Et apparemment, finalement, ils sont passés sur un autre algorithme qui s'appellerait ETH, rien à voir avec les universités suisses. Mais je sais pas qu'est-ce qui va être implémenté au final, quoi.
Ce qui est frappant en allant sur leur site, moi, je connais un tout petit peu les fonds en capital risque et la défiscalisation en Suisse. Et comme par hasard, c'est bizarrement placé à l'endroit le plus spécial de la Suisse, à Zug. C'est un système de défiscalisation aussi, le Ethereum, là?
Alors, la Suisse, en effet, est assez flexible et accueillante pour ce genre de projet. Et je pense que pour eux, ça avait beaucoup de sens d'être dans un endroit où, justement, surtout au niveau de protection de données, ils pouvaient être sûrs. Et fiscalement, c'était aussi très intéressant, c'est sûr.
Il y a aussi un aspect législatif. Il me semble que tu as des monnaies locales en Suisse. Il y a des gens du côté de Berne qui expérimentent avec des monnaies locales, alors qu'en France, techniquement, dans la loi, il est illégal de fabriquer, de battre des monnaies concurrentes de la monnaie nationale.
Il y a quelques-unes des monnaies locales hein, aussi en France.
Il me semble que le code...
Il va y avoir une petite dizaine de monnaies locales en France.
Ah oui, mais ça fait l'objet d'autorisation spéciale en France. C'est des exceptions.
Le code monétaire et financier t'interdit de mettre en place un système monétaire concurrent à celui de l'État. Enfin, après, je sais pas avec l'euro, etc., ce qui s'est passé, mais il est possible que la législation ailleurs soit plus bienveillante.
Alors, on déborde un petit peu là. On va revenir sur les crypto-monnaies et sur les blockchains. Donc, en dehors des crypto-monnaies, donc Bitcoin, etc., dans quel type d'application on va pouvoir retrouver la techno-blockchain?
Ah oui, c'est intéressant ça. À quoi ça sert en vrai, à part de la crypto-monnaie? À faire mieux que les PKI pour se faire confiance?
Alors, ce qu'on peut trouver comme application, le principe de notariat électronique. On est sur un registre hein, qui est vérifié par tous, grosso modo, et partagé par tous. Donc, ça permet de faire du notariat électronique et, par exemple, de déposer une preuve d'antériorité. Qui est le premier à avoir eu telle ou telle idée. Ben là, on a une preuve d'antériorité qui n'est pas discutable, hein, parce que tout le monde a signé à date et à heure hein, le contenu d'une transaction, qui peut être le contenu d'un brevet ou ce genre de choses. Donc, faire de la signature électronique, c'est une des applications, avec tout ce qui est donc droit notarial, par exemple, un dépôt légal, typiquement. Les applications de vote en ligne aussi, c'est très intéressant. Il est possible de faire participer tout le monde sur le réseau et de faire un vote et puis de comptabiliser automatiquement les votes de telle façon qu'on ne puisse pas tricher non plus sur ces votes-là.
Et alors, c'est prévu pour quand la fin du monopole des notaires sur les transactions?
Alors, il y a des projets. Il y a par exemple un projet qui a été commencé lors d'un cours sur Ethereum au MIT, où les gens voulaient utiliser le blockchain pour éviter ce qu'ils appellent le bidding war, où en fait des gens viennent et essayent de surenchérir sur des biens immobiliers afin de artificiellement faire monter les prix. Et donc ils voulaient utiliser ce genre de technologie pour pouvoir identifier quelles sont les personnes qui font partie d'une enchère et puis pouvoir avoir un suivi et puis ne pas avoir comme aujourd'hui des enchères
des enchères trafiquées aussi et aussi ça servirait trafiquée. Aussi pour les enchères inverses et ça pourrait pas servir dans des jeux?
Si tout à fait, ça peut servir dans des jeux et par exemple dans des jeux de casino. Il y a déjà pas mal de jeux de casino par exemple sur Ethereum. L'intérêt, entre guillemets, c'est que on peut vérifier que les jeux sont honnêtes. C'est-à-dire qu'on ne confie pas la gestion du jeu à un humain qui ferait des transactions manuellement en récoltant de l'argent et en leur distribuant manuellement, mais à un contrat. Un contrat, c'est un programme qui va être hébergé sur la blockchain et qui va s'exécuter selon un programme bien défini à l'avance, et qui peut être vu par tout le monde. Donc on crée un contrat, on l'envoie sur la blockchain, c'est un compte comme un autre, sauf que derrière, c'est pas un humain, mais c'est un code informatique qui s'exécute, et ce code informatique ne peut pas être modifié a posteriori. Donc il s'exécutera toujours de la même façon, avec la même confiance que le reste de la blockchain. Et du coup, on peut garantir à des jeux de casino d'être honnête, ou du moins que tout le monde ait la règle du jeu sous les yeux, et qu'il n'y ait pas de détournement d'argent, par exemple, dans les jeux. Donc, on peut penser, effectivement, des jeux de casino. Il y a déjà pas mal de jeux de poker, de jeux de roulette sur Bitcoin comme sur Ethereum qui existent. Et en étendant un peu le concept, récemment, il y a un projet qui s'appelle Augure, hein, un projet de grande envergure, qui permet de faire des paris en ligne et qui veut, en tout cas, a l'ambition d'être la plus grande plateforme de paris en ligne mondiale. Donc, c'est potentiellement quelque chose qui peut peser plusieurs milliards de dollars, voire plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'échelle de l'économie mondiale, qui permettra donc de récolter, d'ouvrir des paris en ligne, de récolter des paris, de gérer automatiquement les cotes et la redistribution d'argent en fonction des paris qui sont faits. Paris qui sont annoncés comme n'étant pas des paris, mais plus comme des prédictions pour être un petit peu correct d'un point de vue politique. Donc, en fait, ils vendent ça auprès des entreprises en disant, voilà, vous voulez prédire tel ou tel événement, telle ou telle échéance, etc. Bah, demandez, consultez Augure hein, et vous aurez des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'opinions pour vous faire une idée précise sur tel ou tel événement.
Oui, et là, tu parles de prédiction, mais du coup, tu as aussi tout le domaine financier avec tout ce qui est warrant, options, turbo, etc. Et là, dans le domaine financier, il y a déjà un consortium de banques R3. Qui explore la technologie blockchain, voilà, la blockchain R3, qui est un développement fait par une société extérieure, mais uniquement à usage interbancaire. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'offre cette blockchain, mais visiblement, il y a déjà des dizaines de banques qui sont intéressées par mutualiser leurs efforts.
Oui, tu as les plus grosses, tu as Bank of America, BNP, SG, HSBC, enfin, vraiment, toutes les plus grosses.
Et c'est l'entreprise UBS, Goldman, JP Morgan et un groupement de 42 banques hein, derrière R3 pour effectivement développer des produits financiers, donc des produits dérivés, ce qu'on fait dans l'économie classique, sur la blockchain.
Alors ça fait plus peur qu'autre chose parce qu'on a vu à quoi les banques nous ont amené avec les produits dérivés, mais bon, on s'éloigne vraiment de la sécurité.
Non, mais tu as aussi pour faire de la compensation interbancaire, et je pense qu'il y a aussi un gros intérêt pour les banques, c'est d'essayer enfin de se débarrasser du monopole de SWIFT, du réseau interbancaire SWIFT, et d'utiliser le protocole blockchain.
Ils pourraient aussi se débarrasser d'autres monopoles comme ceux des cartes bancaires, ils vont se faire avoir eux-mêmes en tant que monopole par
le
les fabricants
R3.
De téléphones portables.
Non, mais comme disait Vlad, effectivement, il y a des gros monopoles comme SWIFT. Faire passer des transactions sur SWIFT, c'est très coûteux et très lent à l'heure actuelle. Parce que, on voit, le temps qu'il faut pour faire une transaction de compte à compte au niveau mondial, c'est souvent 48 ou 72 heures. C'est des délais qui sont pas vraiment acceptables quand on sait que derrière tout est informatisé et qu'on peut envoyer un smiley dans le même temps à son interlocuteur en un dixième de seconde, très facilement. Donc, effectivement, le but, ça serait de remplacer des réseaux comme SWIFT qui sont très lourds et très coûteux par des réseaux un petit peu ouverts, décentralisés, où le temps pour vérifier une transaction est bien plus raisonnable et donc dans lequel on puisse faire des transactions beaucoup plus fluides. Sur Bitcoin, le temps d'une transaction moyenne, enfin, c'est 10 minutes. Sur Ethereum, c'est 15 secondes. Bon, après, il faut compter un multiple de ce temps-là pour réellement avoir confiance et être sûr qu'il n'y ait pas eu de fork de la blockchain dans ce temps-là. Et grosso modo, on peut s'attendre à avoir des transactions bancaires qui sont dans des délais de quelques minutes, ou en tout cas en dessous de la demi-heure ou en dessous de l'heure, d'avoir des transactions fiables, ce qu'on ne sait pas faire à l'heure actuelle avec la finance classique et les réseaux financiers classiques.
Et d'ailleurs, tu reparlais d'Ethereum, mais je vais reposer une question que je voulais poser tout à l'heure, c'est qu'apparemment, le protocole, en tout cas, semble continuer à évoluer, et pourtant, je viens de regarder sur un site, là, apparemment, il y a une capitalisation qui est proche du milliard de dollars. Je crois que c'est 951 millions de dollars. Et comment c'est possible, en fait? Il est possible de faire évoluer le système alors qu'il y a déjà une capitalisation en cours?
La capitalisation, c'est très simple. On prend le nombre d'Ether en circulation, on multiplie par le prix de vente, le dernier prix de vente, et on obtient la capitalisation. Mais c'est un faux chiffre, ça donne un ordre d'idée.
La société possède rien là-dedans. Enfin, elle en possède quelques-uns, mais...
Si, alors elle possède quelques Ether, mais... c'est simplement en prenant le dernier prix de vente qu'il y a sur les plateformes de vente en ligne, multiplié par le nombre d'Ether en circulation, on obtient une capitalisation effectivement qui a dépassé, il y a très peu de temps, 1 milliard de dollars. Mais tous les Ether peuvent pas se vendre au dernier prix de vente, évidemment.
Oui, ça d'accord, mais tu as quand même des transactions qui ont été passées il y a un certain temps avec un certain algorithme, un certain fonctionnement. C'est-à-dire que les nouveaux clients, les nouveaux logiciels qui supportent Ethereum qui vont sortir vont devoir supporter en fait une espèce de legacy des vieilles transactions, non? Ça fonctionne comment?
Alors, en fait, le projet Ethereum a été divisé en quatre grandes phases. Et donc, ces phases sont connues par tout le monde et tout le monde se prépare en fait à la venue de chaque phase. La première phase était la phase frontière, qui était la première mise en place du réseau Ethereum. C'était vérifier que ça fonctionne. Si, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais si on allait il y a pas si longtemps sur leur site web, il y avait plein de messages tout rouges qui disaient qu'il faut absolument pas mettre de l'argent dedans et puis que c'est que les fous qui investissent là-dedans. Et pendant cette première phase, ils ont fait aussi énormément de tests de sécurité. Ils ont essayé de valider en fait leur idée. Et ensuite, ils sont passés à la deuxième phase, qui est celle dans laquelle on est aujourd'hui, qui s'appelle Homestead. Et à partir d'ici, maintenant, ils essayent de beaucoup plus développer les outils, qui sont les outils soit de développement, soit d'utilisation, pour qu'on n'ait plus besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour pouvoir utiliser Ethereum. Ensuite, ça sera Metropolis qui est là, la phase juste avant de passer au Proof of Stake. Et le Proof of Stake sera dans la dernière phase qui s'appelle la phase Serenity, où là, l'idée étant vraiment d'avoir ce qu'ils appellent l'ordinateur mondial. Le but d'Ethereum est de devenir l'ordinateur mondial avec une virtual machine dans le blockchain. Et donc, ils ont déjà mis en place et expliqué dans les grandes lignes où ils veulent aller. Et à chaque grande phase, il y a un hard fork, mais qui est préparé, où chaque personne qui participe au node va se mettre à jour et se préparer à cette mise à jour majeure.
Mais en fait, là, Vlad, ta question, c'est exactement l'histoire de Bitcoin versus Bitcoin XT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin a atteint une limite. Et donc, il faut faire évoluer le protocole parce qu'aujourd'hui, il faut presque 45-50 minutes pour valider une transaction. Et le problème, comme l'a très bien écrit un des développeurs d'origine dans un article sur Medium, je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a, je sais plus, 5 ou 6 Chinois qui contrôlent plus de 51% du
Oui,
mining.
c'est ça, oui.
Et que bah, toute évolution protocolaire en fait est bloquée par ces gens-là parce que bon, pour différentes raisons, une des raisons invoquées par exemple, c'est que le transfert de données avec la Chine est extrêmement lent à travers le Great Firewall of China. Donc en fait, ils veulent pas augmenter la taille de bloc parce que du coup pour eux ça poserait des problèmes. Et donc techniquement, il y a plein d'implémentations qui permettent aujourd'hui de modifier Bitcoin pour pouvoir accélérer la vitesse de transaction tout en restant rétrocompatible. Le seul problème, c'est qu'il faut que tous les gens qui minent, enfin tous les gens qui participent au réseau, mais essentiellement, on va dire, le plus gros pool de mineurs, soient d'accord pour upgrader son client. Et comme les gens en question ont trop à perdre et qu'ils sont peu nombreux, en fait, ils font blocus et du coup, le système est totalement verrouillé et court probablement à sa perte.
Oui, c'est vrai qu'ils vont droit dans le mur, là. C'est ce que disait. Alors, c'est Mike Hearn, le gars, ouais. Développeur de Bitcoin qui a lâché le projet. Effectivement, ce qu'il annonçait dans son blog, c'est qu'ils allaient droit dans le mur comme ça.
Bah, Microsoft acceptait les bitcoins sur son store jusqu'à peu, et il y a quelques semaines, ils ont coupé silencieusement la possibilité de payer en bitcoin. Et je pense que c'est pas qu'une question de volatilité, c'est quand tu mets plus d'une heure à valider le téléchargement d'une app sur une tablette, c'est pas, enfin, tu vois, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas acceptable, quoi. Quand tu payes un ransomware pour récupérer tes fichiers, pourquoi pas, mais. Et il y avait aussi une interview, alors là on est complètement en dehors du Bitcoin, mais ça va faire plaisir à Hervé. En fait, le gars qui dépouille toutes les entreprises françaises par des fraudes au président, en fait, vient
par
d'Israël.
Des arnaques au président.
Oui.
C'est pas une fraude, c'est une arnaque.
Une arnaque, pardon. En fait, il vit en Israël et il a été interviewé chez lui récemment. Et il expliquait que le plus gros problème qu'il avait, c'était de récupérer l'argent. Et qu'aujourd'hui, la Chine était la plaque tournante du blanchiment d'argent dans le monde.
Oui, en
Que
fait.
absolument tout le monde envoyait son argent en Chine pour le
Oui, mais
blanchir.
c'est simplement pour une histoire de factures gonflées. C'est-à-dire qu'il obtient des factures gonflées, donc des fausses factures qui permettent de justifier l'argent. c'est de la politique, là, c'est pas de la sécurité.
Fais attention, il paraît qu'on est écouté en Corée du Sud, alors peut-être aussi en Chine.
Mais je crois qu'il y a, bon, pour revenir au sujet, parce que là on s'éloigne un petit peu, il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé dans la présentation de la blockchain et qui est effectivement extrêmement intéressante, si on parlait de l'ordinateur mondial et de smart contract, etc., c'est qu'il faut bien préciser que la blockchain, c'est pas juste un ensemble de hashes, on va dire, qui se hashent les uns les autres. En fait, chaque bloc de la blockchain, alors sur Bitcoin, par exemple, ils font actuellement un mégaoctet, chaque bloc contient énormément d'informations. Et en particulier, sur Ethereum, il y a une machine virtuelle qui est Turing Complete, et tu peux embarquer un programme complet à l'intérieur du bloc qui va être signé. Donc du coup, tu peux effectivement mettre en place des choses comme des paris ou des contrats qui vont être validés à un instant T, parce que tu peux dire, voilà, le paiement, le transfert de tel montant est conditionné au résultat de tel calcul, et en fait, c'est intégré à la blockchain sous forme d'un langage de programmation qui leur est propre. Et ça, je pense que c'est une propriété de la blockchain que les auditeurs ne connaissent pas forcément. La blockchain, c'est pas juste une signature sur un contrat, mais c'est aussi la manière dont on décrit ce contrat en termes informatiques et reproductibles.
Oui, et ça ouvre la voie à une autre application dont on n'a pas parlé, qui est l'Internet des objets et puis l'interaction avec notre monde physique, en vrai. Là, il y a un projet qui s'est monté sur Ethereum qui s'appelle SLOCK, S-L-O-C-K, c'est un projet de serrure électronique connectée à la blockchain et qui permet d'ouvrir ou de fermer sa serrure à travers des interactions avec la blockchain. Donc vous pouvez tout à fait penser installer une serrure électronique chez vous et confier ensuite l'accès à des membres de votre famille, à des amis, à cette serrure, ou comme Airbnb commence à y penser, à faire un système complètement décentralisé où on fait du paiement pour des locations d'appartements et la personne qui paye a l'accès à un jeton qui lui permet d'ouvrir et fermer autant de fois qu'il veut le logement, le studio, la place de parking, le bureau, etc., etc., à la demande. Donc là, même le guichet est décentralisé puisque c'est l'objet lui-même qui interagit avec la blockchain pour prendre les réservations et gérer le contrôle d'accès, par exemple.
Mais tu pourras payer les crypto-lockers qui prendront en otage ta serrure avec de l'Ethereum ou avec du Bitcoin ?
C'est le principal.
Il y a comme un problème sur Internet des objets, c'est que la blockchain Bitcoin, aujourd'hui, elle fait dans les 65 gigas à la louche. Tu vas pas pouvoir la mettre dans ta serrure, non ?
Mais c'est là où je comprends pas, parce que l'Internet des objets, il y a une telle limitation en termes de mémoire et de consommation électrique qu'il y a une incohérence avec l'utilisation des chaînes de blocs.
Alors, Dans le cas de Ethereum, pour utiliser l'Internet des objets, ils ont eu une idée de pouvoir avoir seulement une partie de l'état en interne et pouvoir, au lieu de pouvoir tout relire et vouloir tout auditer, seulement pouvoir valider l'état actuel. Et donc avoir un état beaucoup plus petit et beaucoup plus gérable.
Enfin, sur une serrure connectée, a priori, c'est quand même une gâche électrique, donc elle doit être reliée d'une manière ou d'une autre au secteur, je pense. Après, il y a quand même un problème de débit sur les réseaux, ça c'est clair, mais...
Mais c'est marrant parce qu'en fait, avec cette histoire, j'ai l'impression... Enfin, le blockchain, en gros, répartit massivement la confiance et le calcul, et j'ai l'impression que ça va à l'opposé de là où le monde va, c'est-à-dire vers le cloud, où tu as une espèce de centralisation vers quelques acteurs.
Je pense qu'on a un cycle qu'on connaît déjà depuis des décennies, qui est centralisation, décentralisation. On a commencé avec les mainframes et les terminales. Après, on a eu l'ordinateur personnel et Internet. Ensuite, on a eu le cloud. Et maintenant, c'est la suite de du cycle avec les blockchains et où de nouveau on décentralise au possible.
Ouais, c'est marrant.
Mais je crois que c'est pas antinomique parce qu'il y aura clairement très peu de blockchains qui survivront. Ce qu'on n'a pas dit, on a parlé de Bitcoin, R3, Ethereum. Mais aujourd'hui, là, il y a Litecoin, Dogecoin, enfin, je sais pas comment on prononce. Je veux dire, des crypto-monnaies basées sur leur propre blockchain, il y en a eu 50. Mais il y en a très, très peu qui survivront dans la durée. Donc, à la fin, c'est comme le cloud. Il y aura quelques gros acteurs qui auront des systèmes décentralisés répartis sur toute la planète. Il y aura quelques chaînes qui survivront.
Ouais, je suis en train de charger la page de CoinMarketCap avec toutes les crypto-monnaies et là j'en suis à 708. Et encore, c'est que celles qui sont déclarées.
Et qui sont convertibles en dollars.
Convertibles
parce que...
en dollars, oui.
Ok, bah, tu sais ce qu'il reste à faire si tu veux devenir riche.
Et puis, il y a beaucoup de blockchains privées donc, qui sont expérimentées, notamment dans les banques. Ce qui est un peu une hérésie parce que la blockchain, il faut qu'il y ait une confiance répartie. C'est un peu le gros intérêt de la blockchain. Et ceci dit, il y a pas mal d'établissements bancaires qui ont des blockchains privées pour des expérimentations ou pour proposer à des clients, hein, proposer des prestations spéciales à des clients. Par exemple, il y a JP Morgan qui teste une blockchain privée avec 2200 clients où là, la blockchain, elle est plus vraiment répartie parce qu'en fait, on a 2-3 serveurs de validation. Et puis le reste, c'est juste des nœuds terminaux qui vont interagir de temps en temps avec la blockchain. Donc on perd l'intérêt un petit peu de la confiance répartie avec ces blockchains privées ou ces blockchains à très petite échelle. Donc effectivement, je pense, je suis du même avis que Nicolas, il y a vraisemblablement que très peu de grosses blockchains qui vont survivre parce que les petites blockchains n'ont pas un intérêt majeur.
Ouais, espérons que Ethereum en fasse partie.
Je crois que c'est différent parce que aujourd'hui, ce qui motive les gens à aller sur Bitcoin, c'est l'appât du gain. Tu mines, tu prends des frais de transaction, voilà. Absolument personne ne construirait des fermes d'ASIC ou ne laisserait tourner son PC toute la journée et ne stockerait des dizaines de gigas sur son poste si c'est pour un truc qui vaut rien, quoi. Par contre, derrière, quand t'as quand même une société, c'est pas. Je sais pas si Ethereum est déclaré comme une fondation ou comme une entreprise. Mais...
C'est une fondation.
Ah oui, donc c'est pas une entreprise, mais il y a quand même quelqu'un qui s'en occupe derrière. Et donc à partir du moment où par exemple il voit que je sais pas, il y a plus assez de nœuds dans le réseau ou qu'il faut une copie intègre de la chaîne, peut-être l'archiver sur bande ou je sais pas, au cas il y a une panne de courant mondiale, là t'as quand même un peu de soutien. Par contre c'est clair qu'aujourd'hui Bitcoin, je dis pas que c'est pas entre les mains de quelques personnes, mais on n'a absolument aucune idée des intentions de ces personnes. Donc.
Tu te doutes bien qu'ils veulent faire de l'argent. Les 3-4 Chinois qui ont des fermes entières d'ordinateurs pour miner du Bitcoin, leur objectif, c'est juste de faire de l'argent. Hein. Enfin...
Aujourd'hui, justement, c'est plus des ordinateurs, c'est des ASIC. Donc, en fait, tu peux en acheter sur des plateformes de vente en ligne. C'est juste tu peux avoir acheté des clés USB que tu branches dans ton PC et qui vont miner du Bitcoin pour toi.
Ouais, mais
c'est assez intéressant.
Quand tu vois
c'est basé sur.
Il y avait un reportage qui était sorti sur un site qui n'est plus accessible, mais tu peux y accéder encore avec archive.org. J'essaie de le retrouver là sur un mineur de Bitcoin en Chine et tu vois les photos, c'est impressionnant. C'est une espèce d'usine désaffectée où les mecs vivent et dorment sur place. T'as des carcasses d'ordinateurs de partout. Des centaines de PC de ventilateurs gigantesques et c'est là juste pour calculer du Bitcoin. C'est à la base le site c'était sur thecoinsman.com et t'avais donc un reportage sur un gros mineur de Bitcoin chinois.
Ouais, mais si ça date d'il y a quelques années, ils étaient encore sur du GPU. Aujourd'hui, maintenant t'as des ASIC et ça consomme presque plus rien, ça prend pas de place.
Là, c'est 2014.
Ah ouais, quand même. Mais ce qui est assez marrant, c'est que c'est en plus ces ASIC qui cassent du SHA 256. Techniquement, rien ne t'empêche de les réutiliser facilement pour casser n'importe quel mot de passe haché en SHA 256.
Mais ça rapporte moins.
C'est une autre histoire. Ça dépend du mot de passe.
Si c'est pour trouver AZERTY 1, 2, 3, 4, que j'ai encore trouvé cet après-midi, c'est bon.
Alors, sur la concentration on a vu qu'il y a une concentration de miners sur Bitcoin, mais ce qui commence à apparaître sur Ethereum, c'est plus une concentration de grosses entreprises informatiques qui vont proposer des services autour de Bitcoin. Il y a Microsoft avec sa plateforme Azure hein, qui a lancé un communiqué de presse il y a peu de temps. Comme quoi, il allait proposer Ethereum, hein, la blockchain Ethereum. Dans sa plateforme Azure, et puis il y a IBM, lui, qui s'intéresse beaucoup aussi au blockchain et qui propose un projet ouvert qui s'appelle Open Ledger Project. Donc c'est des initiatives de géants de l'informatique qu'il va falloir suivre de près.
Ouais, tu sais, maintenant que Microsoft a annoncé qu'il y aurait Bash dans Windows par défaut, je sais plus à quoi il faut que je m'attende.
C'est vrai ça, Nico?
Ouais, ils l'ont annoncé aujourd'hui à leur conférence.
C'est magnifique.
Le prochain shell de Windows 10, ce sera Bash.
C'est magnifique, ça.
Microsoft 2.0.
Après le support de SSH.
Non, non, mais attendez, la conclusion des chaînes de blocs, c'est que Microsoft 2.0, c'est Unix.
Alors justement, en conclusion.
Mais fondamentalement, moi, j'ai toujours pas. J'ai bien vu qu'il y avait des tas d'applications aux chaînes de blocs. Mais concrètement, parce que même l'exemple du monopole de Swift, je m'excuse, mais c'est des choses qui auraient pu être résolues avec les techniques cryptographiques classiques. Et donc, on ne voit pas le vrai bond que permet la chaîne de blocs et que ne permettait pas la crypto actuelle.
Mais la chaîne de blocs, il n'y a pas d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux concurrencer Swift, il faut que tu tires des câbles sous-marins, il faut que tu payes de la fibre, il faut que tu mettes en place des serveurs, que tu designes des protocoles, etc. Alors que justement, la force du décentralisé, c'est que pour concurrencer les acteurs existants, tu as besoin de très très peu d'investissement. Tu fais une spec, tu fournis un client et après le truc se démerde, quoi.
Et une autre application qui est personnellement mon application préférée en Ethereum est ce qu'on appelle les organisations démocratiques et autonomes. Ou par exemple dans l'exemple justement de Slowkit, l'exemple dont on parlait avant pour les serrures. Donc le projet a été organisé de telle manière que dans les prochains jours, logiquement, une levée de fonds à l'intérieur d'Ethereum va être faite et chaque personne qui va investir dans le projet va recevoir en retour les frais de transaction qui vont se passer dans cette organisation décentralisée et autonome. Donc c'est une manière de finalement créer aussi une organisation qui va gérer de la valeur, qui va gérer de l'argent, sans que aucune personne physique doit gérer ça et sans que aucune personne qui fait partie de l'organisation doit avoir confiance à un certain PDG. Le PDG est la machine.
Ouais, enfin, il y a quand même un mec qui est propriétaire du domaine et qui est basé à Zug. Hein.
Non, mais c'est le principe de confiance décentralisée. Il n'y a pas besoin de faire confiance, entre guillemets, à ses associés pour que le projet continue de tourner, déjà d'une part. Et puis d'autre part, il y a l'auditabilité, hein, donc, vous avez souligné Nicolas. Tout le monde est capable de vérifier que personne n'a triché. C'est ça qui est aussi intéressant.
Et ça, c'est très intéressant. Ceci dit, il y a des gens qui l'ont fait dans des mécanismes de vote électronique, de vote, de machine à voter. Bah, sauf que la démocratie, ça rapporte pas d'argent, donc tout le monde s'en foutait et ça n'a jamais intéressé personne.
Mais parce qu'il faut construire les machines, t'as un investissement. Si jamais tu proposes une appli mobile pour voter.
Non, là, c'était juste des principes qui étaient. Mais bon, je vois ce que tu veux dire, mais. Là, si tu proposes effectivement une chaîne de blocs dans une appli mobile, ce sera transparent pour les utilisateurs.
Et puis, tu n'auras pas à concevoir de hardware, de machin, etc. Tu demandes juste aux gens de télécharger une appli Java que tu as fait développer dans un pays à bas coût et ton investissement, il est nul. Quoi.
Et il y a déjà justement sur Ethereum, il y a un projet allemand où justement l'idée est de créer des outils démocratiques sur la blockchain. Où l'idée étant d'aider les gens à pouvoir voter dans leur communauté et faire avancer des projets peut-être moins monétaires et plus sociaux.
C'est vrai qu'en Suisse, on aime bien voter.
Oui, c'est un sport national.
Et puis pour répondre à Hervé, le vote électronique, c'est bien, ça existe depuis longtemps, mais là, la chaîne de blocs permet de faire beaucoup plus que du vote électronique. Donc c'est bien plus générique et généraliste. On fait du vote électronique. On fait de la signature électronique notariat en ligne, on fait des paris en ligne, on fait des objets connectés en ligne. Ça ouvre quand même pas mal d'autres perspectives. Hein. On n'est pas limité à une seule application.
Avec la chaîne de blocs ouverte et vérifiable par tout le monde, tu réalises un vieux rêve de l'humanité, la transparence totale, le panoptique.
Bah, l'open source.
Ah, le panoptique. Ah, c'est bon ça, la chaîne de blocs, c'est la première implantation du panoptique. Ah, elle est bonne celle-là.
Et tout le monde pense que le Bitcoin est anonyme, par exemple. Le Bitcoin est anonyme, mais pas intraçable. Et en fait, la chaîne te donne... Tu peux exactement savoir quelle utilisation a fait de ces Bitcoins le créateur du Bitcoin. Parce que même s'ils ont changé de main, s'ils sont passés par plein de comptes, etc., tu peux tracer toutes les opérations. Et après, le problème, c'est de convertir le Bitcoin en une chose que tu... Enfin, en dollar, par exemple. Et tu peux facilement savoir que la transaction s'est faite à tel endroit et que l'argent venait de tel compte. Tu peux pas mettre un nom sur le compte, sauf si tu arrives au bout de la chaîne et que tu arrives à avoir, on va dire, une information de la part du où sont virés les vrais dollars, quoi. donc le Bitcoin, est anonyme, mais pas du tout intraçable. Tout comme n'importe quelle chaîne de Bloc, a priori, à part s'il y a des gens qui travaillent explicitement sur, on va dire, ajouter de la non-traçabilité dans le système, mais je pense que du coup, ça tuerait tout l'intérêt de la chaîne de Bloc.
Et une question subsidiaire, il y a des enseignements supérieurs qui sont dédiés uniquement aux chaînes de Bloc.
Alors, à ma connaissance, je connais un programme à Chypre sur la crypto-monnaie. C'est la seule dont j'ai connaissance.
Il y a des formations aussi en France. J'ai des amis qui travaillent dans des grandes banques françaises qui ont suivi des formations sur le sujet en France.
Ah, il y a aussi des gens du CNRS qui travaillent dessus, puisqu'on a eu une présentation de Jean-Luc Parouty à la JSSI de Lossir.
Excellente, son propre projet. Excellente présentation.
Le projet DocProof qui est basé justement sur la preuve de dépôt basée sur la blockchain Bitcoin.
Alors en conclusion,
c'est peut-être une partie de l'avenir de l'humanité qui se joue avec les chaînes de blocs, l'avenir le dira.
Je pense que c'est le début d'une grande aventure avec encore beaucoup d'inconnus, mais un grand potentiel.
David, merci beaucoup pour ta participation.
Merci à vous tous, c'était très intéressant.
Bon, eh bien, chers auditeurs, nous vous incitons fortement donc à vous intéresser à cette technologie. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.